Je suis content de pouvoir partager la parole du Seigneur aujourd'hui, ce matin. Cet après-midi, pardon. J'ai l'habitude de le faire le matin, mais plutôt l'après-midi. Est-ce que je peux changer à partir de l'écran ou il faut que j'ai... Ouais, super. Ouais. Alors, on va parler aujourd'hui de la croissance spirituelle. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans 2 Pierre 1. Versets 3 à 9. Donc, 2 Pierre 1, versets 3 à 9. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elle ne vous laisse pas inactif ni stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie. Il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. Alors, on va passer au slide suivant. C'est bon. Depuis maintenant 9 ans, on entend tous les jours parler de la croissance économique. C'est vraiment l'un des sujets les plus abordés et c'est vraiment ce qui préoccupe le plus les Français. On entend dire que la croissance est en berne, qu'il faut des plans de relance de l'économie, que ce manque de croissance économique, c'est générateur de problèmes sociaux, la précarité, le chômage, l'assistanat, les impôts et j'en passe. On cherche des solutions, mais depuis 10 ans, presque rien n'a changé. Mais qu'en est-il de ma vie spirituelle? Est-ce qu'il ne m'arrive pas aussi d'avoir des problèmes de croissance spirituelle? Et est-ce que cette croissance spirituelle en berne amène des problèmes d'ordre spirituel, comportemental ou moral dans ma vie? Que j'essaye des plans de relance spirituelle, mais que ça ne fonctionne pas? La croissance spirituelle est abondamment enseignée dans les évangiles par Jésus. Par exemple, l'image de la plante qui croît et qui porte du fruit. Et donc, c'est un sujet qui est vraiment important dans la vie chrétienne. Le chrétien est appelé à grandir. Et c'est dans ce but que Pierre a écrit cet épître. Si vous regardez avec moi, 2 Pierre 3, verset 18. « Mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. » Pierre veut encourager le chrétien à progresser, à grandir dans la grâce et la connaissance du Christ. Et c'est pourquoi, si vous relisez l'épître, il prévient ses lecteurs contre les dangers pouvant interrompre cette croissance et les conséquences pour la vie du croyant. Donc il passe beaucoup de temps à dire dans 2 Pierre, à dénoncer les faux enseignants et leurs faux enseignements. Donc le chrétien est appelé à grandir. Et cet après-midi, j'aimerais qu'on voit 2 aspects de la croissance spirituelle qui vont m'encourager à tendre vers la maturité. Le premier aspect, versets 3 et 4, « Grandir, c'est mieux connaître le Christ. » Grandir, c'est mieux connaître le Christ. Au verset 3, Pierre souligne que dès que je deviens chrétien, j'ai tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Le Christ, par sa puissance, me donne tout ce dont j'ai besoin pour une vie dans la piété. Et cette vie dans la piété, c'est pas l'image que la société se fait de la piété. Parce que dans l'imaginaire collectif, si vous pensez un peu à la vie de piété, si vous interrogez les gens dans la rue, qu'est-ce que c'est pour vous être pieux ou être pieuse? Bah, les gens vont vous répondre, bah, quelqu'un de pieux, c'est quelqu'un qui se prive de certaines choses, c'est quelqu'un qui vit reclus de la société, en dehors, c'est un ermite, c'est un moine, c'est une nonne. On a souvent cette image-là de la piété. Donc c'est souvent une mauvaise image. Mais ce n'est pas du tout ce qu'enseigne Pierre. La vie de piété que le chrétien doit avoir est une vie où toute sa personne est orientée vers Dieu. La vie de piété, c'est une vie où le chrétien est orienté vers Dieu. Où en tant que chrétien, je suis conscient que je marche devant Dieu, jour après jour, saisi par la grandeur et par l'excellence de sa personne. Donc la piété, c'est avant tout une histoire relationnelle. Plus qu'un comportement extérieur, c'est une profonde disposition de cœur interne. Être pieux, c'est être préoccupé en premier par Dieu seul. Je pense à un pasteur du XVIIIe siècle, qui s'appelait Jonathan Edwards, pour ceux qui connaissent. Et ce pasteur avait pour l'habitude de prendre énormément de temps pour le Seigneur. Bon, en même temps, c'était son métier. C'est vrai qu'il devait faire ça. Mais lorsque vous lisez un peu ses écrits, lorsque vous regardez un peu sa biographie, il aimait sortir, se promener dans la forêt, contempler la nature que Dieu avait créée et louer Dieu pour ce qu'il avait fait et se réjouir de ce qu'il faisait dans sa vie. Et je pense qu'on peut prendre son exemple pour nous-mêmes, de vivre une vie où on prend le temps, malgré nos activités, malgré le courant de la vie, malgré le travail, où on est conscient et on prend le temps de louer Dieu et de se réjouir pour ce qu'il fait dans notre vie de tous les jours. La piété, c'est quelque chose que le chrétien doit rechercher. Et au fil des siècles, les chrétiens ont une différente forme de piété, qui n'est pas la piété biblique. Dans nos milieux évangéliques aujourd'hui, il y a beaucoup qui pensent qu'il faut rechercher une certaine expérience du Saint-Esprit pour pouvoir faire un bond dans la vie chrétienne. Et ce genre d'enseignement, malheureusement, ça distingue les chrétiens entre eux. Ceux qui ont des expériences extraordinaires avec le Seigneur et les autres. On parle même des chrétiens charnels et des chrétiens spirituels. Et le danger de ce genre d'enseignement, c'est de mettre le chrétien dans une boîte où la perspective de progression est possible que si je passe par une certaine épreuve et expérience spirituelle. Regardez le schéma. Voilà, on distingue chrétiens spirituels, chrétiens charnels, les chrétiens remplis de l'esprit et les chrétiens ordinaires. Le problème, c'est si j'adopte ce genre de modèle, alors je remets en question ce que Pierre dit au verset 3. Et voici ce que Pierre dit au verset 3. Le Christ nous a donné tout. Ce schéma, je le tire d'un bouquin, c'est pas de moi. Le Christ nous a donné tout. Et si j'ai tout, alors je n'ai pas besoin de plus. Et si je n'ai pas besoin de plus, alors je n'ai pas besoin de passer par des expériences surnaturelles pour faire un bond dans ma sainteté. Et ce tout dont Pierre parle, c'est quoi ce tout dont Pierre parle? Verset 3. C'est la connaissance de celui qui nous a appelés. Une mauvaise connaissance du Christ m'amènera à être vulnérable face aux faux enseignants et aux faux enseignements. Et donc ça m'amènera à vivre une vie non conforme à l'évangile. Et donc ça amènera des problèmes dans ma vie personnelle. Dans l'exemple qu'on a vu tout à l'heure, si j'adopte ce genre d'enseignement, alors le risque, c'est que je recherche l'expérience surnaturelle plus que Dieu lui-même. Et au final, le Seigneur devient un moyen ou un prétexte pour que j'obtienne ce que je désire vraiment. Alors ça peut être l'expérience surnaturelle, ça peut être la paix, ça peut être l'amour, ça peut être l'amitié, ça peut être une famille. Mais toutes ces choses-là, en fait, sont des dons que Dieu donne. Mais le chrétien peut prendre le risque de rechercher ces choses-là au lieu de rechercher Dieu en premier. Et faire cela, mes amis, c'est tomber dans le piège de l'idolâtrie, puisque je remplace Dieu par une chose qui n'est pas Dieu. La recherche de Dieu doit être le but ultime de tout chrétien. Car si le Christ nous a rachetés, c'est pour que nous puissions le connaître lui et lui seul. Un de mes professeurs à l'Institut disait « Avant toute autre chose, ta vie chrétienne doit être une poursuite assoiffée de Dieu lui-même. Avant toute autre chose, ta vie chrétienne doit être une poursuite assoiffée de Dieu lui-même. Par la connaissance de Dieu, j'accède à des promesses merveilleuses pour ma vie. » L'héritage céleste et la participation à la nature divine, verset 4. Celle-ci, donc la connaissance de Dieu, nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. L'héritage et la participation à la nature divine traduisent la même réalité. Cette réalité, c'est que grâce à la puissance de Dieu, le chrétien se voit assuré d'obtenir des richesses spirituelles. Et c'est vraiment extraordinaire. Et la participation à la nature divine, c'est pas avoir comme une déification. Je ne deviens pas un Dieu comme Dieu est Dieu. Derrière cette expression-là, en fait, il faut voir le fait qu'on devienne immortel, moralement pur, saint et glorieux comme le Christ. Et ça, c'est vraiment merveilleux, surtout lorsqu'on réfléchit et lorsqu'on pense à notre vie et qu'on voit à quel point on est pécheur. Mais Dieu nous transforme comme lui, à son image. Et cette perspective, comme on vient de le voir au verset 4, c'est un puissant moteur pour échapper aux désirs de ce monde. Puisque je vais devenir saint, alors j'échappe aux désirs de ce monde. Comment appliquer ces réalités dans ma vie ? Comment les mettre en pratique? Je pense qu'on peut simplement prendre l'exemple de Jonathan Edwards. L'une des clés pour une vie centrée sur la recherche de Dieu et de la gloire à venir, c'est de s'entraîner dans notre esprit à vivre conscient de la présence de Dieu et du monde spirituel qui t'entoure. Et comment est-ce que je peux m'entraîner à vivre conscient de la présence de Dieu et du monde spirituel qui m'entoure? Par la méditation personnelle, spirituelle, par la méditation de la parole, jour après jour, ou par la méditation dans mon esprit où je contrôle mes pensées et je me dis, tiens là, pense au Seigneur, pense à un verset. Et jour après jour, mon esprit devient conscient que je marche devant Dieu. Deuxième aspect de la croissance spirituelle, deuxième aspect de la croissance spirituelle, grandir, c'est s'efforcer à progresser dans la vie chrétienne. Grandir, c'est s'efforcer à progresser dans la vie chrétienne. Donc au verset 3 et 4, Pierre nous donne le carburant nécessaire pour avancer dans la vie chrétienne. Et regardez avec moi au début du verset 5. Pierre commence en disant « pour cette raison même ». Sous-entendu « à cause de ». Sa divine puissance qui m'a tout donné, sa gloire et sa vertu qui m'ont appelé, des promesses excellentes de la gloire à venir et de ma participation à la nature divine, à cause de tout ceci, maintenant, je peux avancer. Puisque je sais tout cela, je peux maintenant faire les efforts nécessaires pour ma progression dans la vie chrétienne. Faites tous vos efforts. Verset 5, faites tous vos efforts. Et la notion d'effort, dans la vie chrétienne, elle est souvent mal perçue ou mal comprise. Moi-même, dans ma vie chrétienne personnelle, j'ai eu du mal à savoir comment est-ce que je pouvais combiner les efforts et la foi. Et la foi, c'est le premier fruit que Pierre recommande. Regardez au verset 5. Faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi, etc., etc. Donc, comment combiner la foi et l'effort ? Face à l'effort, dans la vie chrétienne, on a souvent ce genre de réflexion. Je dois faire des efforts, mais tout est par grâce. Si je fais des efforts personnels, alors je sors de la grâce. Vaut mieux laisser le Seigneur agir que de se forcer à changer. Lâche tout et Dieu agira. Alors ces réflexions-là, elles viennent d'un faux enseignement qu'on appelle le quiétisme. Le quiétisme, c'est un courant qui est né au XVIIe siècle, qui dit que lorsque l'âme renoue avec Dieu, retrouve sa liaison avec Dieu, alors rentre dans un état de repos, quies, repos en latin. Donc elle n'a plus besoin de faire des efforts ou de faire des actes. Et donc en gros, je peux être peinard, je suis chrétien, hop, dans mon transat, et je peux vivre ma vie chrétienne, j'ai plus rien à faire, Dieu fait tout à ma place. En gros, adapter ce genre de raisonnement, ce genre de faux enseignement, c'est croire qu'exercer des efforts vigoureux dans la vie chrétienne, c'est agir dans la chair. C'est croire que Dieu va agir en nous et à travers nous si seulement on lui lâche tout et qu'on le laisse tout faire. Et au final, on arrive à croire à tort que l'effort et la foi chrétienne sont incompatibles. Que notre tâche, ça se limite juste à croire que le Seigneur va agir. Et cette doctrine, en fait, elle incite à la passivité dans la vie chrétienne. L'enseignement biblique considère le rapport entre la foi et l'effort de manière complètement différente. Dieu nous transforme, mais il n'agit pas à ma place. Dieu me transforme, mais il me rend capable d'exercer moi-même des efforts efficaces pour ma croissance spirituelle. Et l'idée dans le fait de faire des efforts dans ma croissance spirituelle, c'est de faire fructifier et de valoriser le salut que j'ai déjà acquis en Jésus-Christ. Et cet effort personnel, il ne sera pas efficace à cause de l'effort que je fournis, à cause des forces que je mets dans l'affaire, mais il sera efficace à cause de l'action divine dans ma vie. Ce ne sont pas mes efforts qui sont efficaces, mais c'est l'action divine. Donc, bibliquement parlant, Dieu me pousse à faire des efforts et à ne pas rester passif, contrairement à ce qu'enseigne le quiétisme. Donc, on peut s'encourager soi-même et se dire, fais des efforts parce que Dieu agit en toi. Donc, faire des efforts, ce n'est pas mauvais. Ce qui est mauvais, c'est mettre sa confiance dans l'effort que je fournis plutôt que de mettre sa confiance en Dieu. Et voici une illustration que j'ai tiré pour illustrer cela. Donc, je place ma foi en Dieu et je travaille dans ma vie chrétienne. Au lieu de travailler dans la vie chrétienne, de placer mon effort dans ce que je fais. Donc, elle est là la différence. Et voici le bon modèle biblique. Et où est-ce que l'effort doit se faire ? À partir du verset 5, Pierre nous donne une liste de qualités morales que le chrétien doit avoir jusqu'au verset 7. Différents domaines dans lesquels je dois travailler et que je dois progresser en tant que chrétien. Donc c'est la foi, la qualité morale, la connaissance, la maîtrise de soi, la persévérance, la piété, l'amitié fraternelle et l'amour. Et donc cette liste, elle n'est pas à voir comme une simple succession de choses que je dois travailler. Donc maintenant, je commence à travailler sur ma foi. Et dès que j'ai fini de travailler sur ma foi, je commence à travailler sur ma qualité morale. Et dès que j'ai fini de travailler sur ma qualité morale, je commence à travailler sur la connaissance. Et ainsi de suite, jusqu'enfin arriver à l'amour, peut-être à la fin de ma vie, je commencerai à aimer les autres. C'est pas à voir de cette manière. Mais il faut plutôt le voir comme ceci, comme un arbre. Si vous regardez bien au verset 5, Pierre commence par la foi, et au verset 7, il finit par l'amour. Donc c'est comme un arbre. Par la foi, je puise ma force dans le Seigneur, et je commence à travailler différents domaines. Alors peut-être que la maîtrise de soi, c'est facile pour toi, mais que tu as plus de mal dans l'amitié fraternelle. Bah, par la foi, tu puises ta force dans le Seigneur et tu travailles ton amitié fraternelle. Peut-être que tu as plus de facilité avec la connaissance, mais que tu as plus de mal avec la persévérance. Bah, par la foi, tu puises tes forces dans le Seigneur et tu vas travailler sur la persévérance ou sur la qualité morale. Et tout cela va tendre vers l'amour qui est le lien par excellence. Sans l'amour, toutes ces choses-là sont vaines. Et donc, ce sont les deux choses qui encadrent notre vie. La foi, je puise mes racines dedans, et l'amour, la chose vers laquelle je dois tendre. En plus, verset 8, si je me mets à travailler et à faire mes efforts dans ma vie chrétienne de cette manière, il y a quelque chose de merveilleux qui se passe lorsque je me mets à l'œuvre. Il y a comme un effet rétroactif. Je vais relire le verset 8. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. La connaissance du Christ me pousse à agir. Et lorsque j'agis, je nourris ma connaissance du Christ qui me pousse à agir. Donc ça crée un cercle vertueux, comme un effet rétroactif. On peut voir avec ce schéma. La connaissance du Christ me pousse à faire des efforts dans la foi. Et l'effort dans la foi nourrit ma connaissance du Christ qui me pousse à agir. Et je grandis dans ma vie chrétienne. C'est comme ça que je grandis. Mais malheureusement, verset 9, si je ne fournis pas d'efforts, le danger me guette. Le manque de présence de ces qualités dans ma vie chrétienne témoigne de deux choses. Mon aveuglement et mon ignorance. Et là, Pierre, au verset 9, donne un sérieux avertissement. En gros, il explique que ces qualités, si ces qualités ne sont pas visibles dans la vie du chrétien, alors les chrétiens oublient qu'ils se sont fait baptiser pour le pardon de leurs péchés. Dans l'Église primitive, pour un peu comprendre ce verset, dès qu'on faisait profession de foi, on se faisait baptiser directement. Il n'y avait pas de temps d'attente. Et le mot « baptiser », c'était un symbole de la conversion. Et c'est ce qu'utilise Pierre ici. Lorsqu'il dit le mot « purification », il est en train de parler du baptême, qui était un symbole de notre conversion envers le Seigneur. Et il y a certains commentateurs qui expliquent le verset 9 en disant que ces personnes qui se sont aveuglées, ben c'est parce qu'elles n'ont pas su voir ce qu'elles auraient dû voir. Ces personnes sont devenues myopes parce qu'elles ont oublié la chose la plus importante de leur vie chrétienne. Elles ont oublié le pardon de leur ancien péché. Ayant oublié le pardon de leur ancien péché, alors ils ne vivent plus conformément à l'Évangile. Et quelque part, peut-être qu'ils sont en train de montrer par là qu'ils n'ont jamais vraiment cru qu'au final, leur baptême d'eau, n'a rien symbolisé. C'est pourquoi, mes amis, nous devons faire gaffe. Un manque de croissance spirituelle, un manque de changement dans ma vie chrétienne peut témoigner contre moi. S'il n'y a pas de progression, même infime, alors peut-être que je ne crois pas vraiment. Et le manque de croissance dans ma vie chrétienne peut m'amener à douter de mon salut personnel. Alors comment ne pas tomber dans le piège de la paresse et de l'oubli du pardon des péchés ? Trois démarches pour prendre en main ta vie chrétienne. Trois démarches qui ne sont pas de moi. Première démarche, avoir des buts clairs. Vers quel but précis tu dois exercer des efforts dans ta vie chrétienne? Pour éviter de vagabonder dans ta vie chrétienne, pour éviter que je vagabonde dans ma vie chrétienne, je dois prendre le temps de savoir ce à quoi j'ai à travailler et de savoir les disciplines que je dois mettre en place pour progresser. Bien souvent dans la vie de tous les jours, on planifie notre vie. On se dit, je réfléchis à ce que je vais faire demain, je réfléchis à ce que je vais faire dans quelques mois, je réfléchis à ce que je vais faire l'année prochaine, je réfléchis à mon prochain travail, je réfléchis au prochain lieu où je vais habiter, et tout cela, ça semble tout à fait normal de le faire pour notre vie terrestre. Et si on ne le fait pas, on va nous reprocher de ne pas prendre le temps de réfléchir et de planifier notre vie. Et ce qu'on fait pour la vie terrestre, est-ce qu'on ne devrait pas le faire d'autant plus pour notre vie spirituelle? Donc c'est important pour ma vie spirituelle d'avoir des buts clairs, de savoir où est-ce que je dois travailler. Et là, Pierre, il nous donne une liste fabuleuse. Elle est fabuleuse, sa liste. Si tu as des problèmes de persévérance, alors c'est peut-être là que tu dois travailler. Moi, par exemple, la piété a été un problème, la maîtrise de soi est un problème. Et je sais que je dois travailler dessus. Et donc j'ai ce but clair et je vais essayer de tendre pour travailler dessus. Donc je réfléchis premièrement à avoir des buts clairs et je pousse ma réflexion et j'ai vraiment une réflexion assidue sur les efforts précis que je dois faire pour arriver au but. Donc je fixe le but, la persévérance, la maîtrise de soi. Et maintenant, je réfléchis à comment est-ce que je vais faire pour y arriver. Tout comme dans la vie de tous les jours, je peux réfléchir à « Ah bah tiens, je vais déménager à tel endroit. » Maintenant, je réfléchis à comment est-ce que je vais mettre en place le déménagement. C'est la même chose dans la vie de tous les jours. Par exemple, Thomas a un problème dans sa vie de prière. Et peut-être que Thomas devrait se demander quels sont les obstacles qui l'empêchent d'avoir une vie de prière quotidienne. Deuxième exemple, Bérangère a un problème de patience dans sa vie. Peut-être que Bérangère devrait se demander quelles sont les sources de son impatience et réfléchir à pourquoi elle est impatiente dans telle ou telle situation. Et enfin, après avoir mené une réflexion assidue sur les origines de mes problèmes, je fais des efforts soutenus. J'exerce des efforts de manière soutenue et persévérante en forme de petits pas concrets. Par exemple, si j'ai un problème dans ma vie de prière, au lieu de vouloir atteindre directement les 2 heures ou les 3 heures de vie de prière tous les jours, pourquoi pas simplement prier 5 minutes? Pourquoi pas, dans le métro ou dans les transports en commun, commencer à réfléchir à Dieu? C'est un petit pas concret. Et petit à petit, je vais avoir de bonnes habitudes qui me permettront de grandir dans ma vie spirituelle. Pour conclure, pour faire revenir la croissance, on parle souvent de mesures étatiques, de réformes, de mesures grandioses. Et peut-être pour faire revenir la croissance spirituelle dans ma vie personnelle, faudrait que je prenne des mesures pour réformer ma vie. De la même manière qu'on parle de disciplines budgétaires, de disciplines étatiques, il faudrait que je mette en place des disciplines spirituelles, des efforts personnels, mais en fixant les regards sur mon Seigneur qui m'a tout donné pour que je puisse vivre une vie pieuse devant lui. Et ce qui est encourageant, en fait, dans la vie chrétienne, c'est de savoir que si je peux faire ces efforts-là, c'est parce que Dieu agit en moi. Parce que Dieu agit en moi, alors je peux me mettre en œuvre. Et sa grâce me pousse
a changé.
Je vous invite à prier. Ouais, Père éternel, on reconnaît que sur tous ces domaines, on est faible. Et moi, le premier, je te demande pardon, Père, pour mon manque de piété, mon manque de qualité morale, pour mon manque de croissance spirituelle dans ma vie. Mais merci pour ta parole qui nous encourage et qui nous rappelle que tu nous as tout donné. Tu nous as tout donné afin de vivre la vie que tu veux que nous vivions. Et je te prie, Père, que tu puisses nous encourager à faire des efforts soutenus pour progresser et pour vivre cette vie sainte, merveilleuse que tu nous donnes. Dans le nom de Jésus. Amen.